Et cette semaine, on se pose la question de savoir si Donald Trump est en échec vis-à-vis de ses déclarations lorsqu'il prétendait, avant l'élection présidentielle américaine, résoudre le conflit russo-ukrainien et la situation au Proche-Orient. Pour mémoire, pour l'un c'était en 48 heures, pour l'autre en 24 heures. Voici donc l'avis de Daniel Haber, géopolitologue de son état, chroniqueur sur Radio Judaïka, et il répond aux questions, bien entendu, de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin pour nos conversations du lundi. Alors aujourd'hui, nous allons parler des négociations qui se passent dans le monde actuellement. Donald Trump, en arrivant au pouvoir, avait promis de résoudre les conflits en 24 à 48 heures. Est-ce qu'aujourd'hui, il est en situation d'échec sur le front ukrainien, russo-ukrainien et vis-à-vis de l'Iran également?
Alors, évidemment, lorsqu'il lance les slogans « je vais résoudre ça en 24 heures », il faut pas prendre les choses à la lettre, hein. Ce sont des propos trompiens qui ne trompent personne, mais c'est vrai que sur les deux négociations, il est pressé. D'ailleurs, c'est la difficulté de ces négociations, c'est que les interlocuteurs qu'il a en face de lui savent qu'il est pressé. Il est pressé parce qu'ils sont un obstacle à ce qu'il veut vraiment faire, c'est-à-dire, au fond, essayer de bâtir un nouvel ordre mondial en direct avec les Chinois, et que donc il faut se débarrasser de ces conflits qui sont pour Trump, et je pense que ça c'est une bonne chose, d'un autre âge. Ce n'est plus comme ça qu'il faut régler les conflits. Je crois que la vision trumpienne du monde, c'est oui, il y a des guerres, mais des guerres économiques, surtout des guerres technologiques, c'est ça qu'il a en tête, et pas des conflits militaires qui n'ont aucun sens, surtout avec des puissances nucléaires. Sur les négociations dont vous parlez, celle avec Poutine semble patiner, c'est vrai, si j'ose dire, et celle avec l'Iran, on semble avoir du mal à s'engager. Donc vous avez raison, mais il faut voir que pour négocier, il faut être deux, et qu'il a en face de lui, Trump, des négociateurs qui sont rusés, qui sont cyniques, qui connaissent l'art de la négociation largement aussi bien que lui. Donc tout ça est un petit peu normal. Si vous voulez, pour l'Ukraine, au fond, avec Poutine, il tente une entreprise de séduction pour amener Poutine à un cessez-le-feu. Je crois qu'il va y arriver. On verra ça un peu plus tard dans la discussion. Avec l'Iran, c'est le contraire, hein. C'est ultimatum et menace. Donc, il faut savoir qu'il a écrit aux ayatollahs en disant le 15 mai, autour du 15 mai, faut qu'on entre en négociation. Et on en entend beaucoup parler, hein, maintenant dans tous les médias. Il prépare. On entend beaucoup parler de bombardiers furtifs, de bombes de 5 tonnes. C'est-à-dire qu'on prépare des bombardements des sites nucléaires. C'est la menace. Hein, c'est face à un dictateur, c'est la menace. Donc voilà, ce qu'on peut quand même faire comme commentaire général, c'est que ce n'est pas Trump qui crée le chaos au fond. Il semble créer un chaos par ses idées un peu folles sur le Groenland, sur Panama, sur le Canada, et ce chaos est amplifié par les commentaires sans fin de toutes les radios et toutes les télévisions. Mais en réalité, ces choses-là vont se régler. Regardez le Panama, ça s'est réglé, hein. La société chinoise qui gérait l'entrée et la sortie du canal de Panama, des ports qui sont à l'entrée, a vendu ses actions à un fonds américain. Donc c'est un arrangement financier dont on connaîtra un jour les tenants et les aboutissants, mais les Chinois ont cédé tout de suite. Et quant au Groenland, on voit bien que l'idée, c'est de ne laisser ni la Russie ni la Chine prendre, vous savez, la nature a horreur du vide. Si les Américains ne s'y mettent pas, d'autres s'y mettraient. C'est ça l'idée un petit peu. Donc toutes ces idées-là donnent l'impression de chaos, mais lui, je pense qu'il cherche à canaliser le vrai chaos qui sont les conflits militaires sanglants. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la négociation, et toujours rappeler qu'il a en face de lui des adversaires qui sont soit cyniques, soit fanatiques, hein, comme l'Iran, et que c'est pas facile de négocier avec des adversaires comme ça.
Oui, alors Daniel, quelles sont les perspectives aujourd'hui?
Alors, les perspectives de négociation, je pense qu'elles existent. Pour l'Ukraine, il est clair qu'on va vers un cessez-le-feu. Simplement, Poutine essaye de gagner du temps et en bon négociateur, Trump sait qu'il ferait la même chose. Et d'ailleurs, il lui dit, bon, ben voilà, je sais, tu sais que je suis pressé, tu veux gagner du temps, mais Poutine ne se fait pas trop d'illusions. Il sait que Trump a des limites qu'il ne faut pas dépasser, où il transforme l'amitié en haine, où il peut s'énerver, où il peut prendre une position contraire. Donc, je pense que Poutine saura s'arrêter le moment voulu et qu'on entrera dans un cessez-le-feu qui sera dur à accepter pour l'Ukraine. L'Ukraine va se couper un bras pour sauver le corps et qui ne résoudra pas le long terme, hein. Le long terme, il sera résolu après, mais ça, Trump le sait. Sur l'Iran, c'est plus compliqué parce que, d'abord, le gouvernement iranien est multiple, hein. Il y a les ayatollahs, il y a les gardiens de la révolution, il y a le gouvernement et l'armée régulière, il y a beaucoup d'interlocuteurs dont on sait qu'ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Et pour l'instant, ce qu'on entend du côté Iran, c'est nous on veut bien négocier, sauf sur notre programme nucléaire. Or, la seule négociation que Trump veut avoir, c'est sur le programme nucléaire, et c'est sur ce front chiite, ces six alliés qui ont fait la guerre à Israël, et qu'il faut que ça cesse. Donc, pour l'instant, on a une pression forte sur l'Iran, et je pense que au mois de mai, les Iraniens finiront, parce qu'ils sont rusés, malins, par rentrer en négociation, en espérant aboutir à un deal à la Obama. C'est-à-dire un traité qui soit satisfaisant pour personne, et voilà, donc c'est vers ça qu'on s'avance.
Et Israël dans tout ça, Daniel?
Ben justement, sur la négociation avec le Moyen-Orient, la façon dont les choses s'engagent préoccupe beaucoup Israël. Israël a vaincu tous ses adversaires, mais ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là. On voit bien à Gaza, hein, ils essayeront toujours jusqu'au bout de se réarmer, parce que le terrorisme, c'est ça, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est irrationnel, le terrorisme. Et donc, face à ces adversaires irrationnels, on voit bien que ce sera difficile d'obtenir quelque chose, sauf si on peut avoir l'Iran qui accepte d'allumer des brasiers. Donc, pour cela, il faudra certainement aller très loin. Mais le souci d'Israël, dans la position américaine vis-à-vis de l'Iran, c'est que on sait que Trump rechigne à une opération militaire, même si elle est annoncée, même si on parle de bombardiers, etc. Israël a bien compris que Trump préférera, au fond, un mauvais deal qu'une bonne guerre. Et donc le risque pour Israël aujourd'hui, c'est qu'on trouve un accord avec l'Iran qui soit meilleur que celui d'Obama, mais qui soit pas vraiment satisfaisant pour Israël, parce que ça laissera Israël face à un Iran qui restera pays du seuil. C'est ça le risque avec son programme nucléaire. Il va l'arrêter officiellement. D'ailleurs, il dit qu'il ne veut pas la bombe. Donc, vous voyez, il ment, il continuera à mentir. Mais Israël devra vivre avec un Iran qui sera un pays du seuil. Et qui évidemment ne cessera jamais de vouloir s'en prendre à l'Occident, au grand Satan et au petit Satan. Donc pour Israël, sa préoccupation, c'est qu'en plus il sera pas forcément partie directe à la négociation, et qu'il sera obligé de faire comme Zelensky fait avec la négociation, c'est négocier avec les États-Unis. Et laisser les États-Unis négocier avec Poutine. Et là, le danger, c'est un peu ça. Et donc, je pense que pour Israël, le risque, c'est de rester avec cette guerre d'usure qui continue encore aujourd'hui.
Alors, pour terminer, Daniel, en 2 minutes, c'est une question très vaste à laquelle nous reviendrons, je pense, dans nos prochaines conversations. Peut-on espérer aujourd'hui, avec tous les conflits qui hantent ce monde, un nouvel ordre mondial?
Écoutez, les conflits sont limités, hein, aux deux dont on parle. Les autres sont des conflits très locaux, quasiment tribaux, des guerres civiles, etc., dont Trump d'ailleurs ne pense pas se préoccuper. Non, l'ordre mondial viendra que par un accord au fond entre les États-Unis et la Chine. Et la Chine, elle est quand même l'ombre portée derrière la négociation avec l'Ukraine et la négociation avec le Moyen-Orient. Derrière, il y a la Chine qui est aux côtés côtés de l'Iran et qui est aux côtés de la Russie, sans qu'on puisse dire qu'ils sont des alliés. Ils sont pas des alliés, mais ils sont aux côtés. Donc, jusqu'à quel point ils seront aux côtés, quel est le type d'accord que Trump pourra obtenir avec la Chine, c'est le vrai débat et qui n'a pas encore commencé. On sait qu'entre Biden et Xi Jinping, on avait trouvé une sorte de modus vivendi, hein, on va pas aller trop loin. Il est probable qu'avec Trump, on trouvera aussi un modus vivendi, mais que ça sera long, et que ça va prendre d'abord le temps de ces deux négociations dont nous avons parlé aujourd'hui, et qu'ensuite il faudra trouver des accords qui impliquent aussi l'Europe. Il faut que l'Europe se construise, là elle est en train de se construire sur nos yeux, et surtout qu'il faudra se pencher sur ce sud global, ces 150 pays qui sont dans le ressentiment anti-occidental, mais qui sont en fait pas des ennemis de l'Occident, et qu'il faudra organiser en sous-groupes. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à un ordre mondial apaisé. Donc c'est pas pour demain, on le sait bien ici. Et pour Israël, la préoccupation, c'est quand même l'Iran et les négociations qui vont s'engager d'ici le mois de mai.
On aura évidemment l'occasion d'y revenir dans nos prochaines conversations. Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. On se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine.